Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Mila Kouloto-Koumouli, le président de l'Éveil Océanien. Bonjour.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'accepter notre invitation alors que votre parti tenait samedi son conseil politique. Vous avez par ailleurs été présent à Paris pour les discussions qui ont abouti à l'accord complémentaire Élysée-Oudinot. On va parler de tout ça. Mais d'abord, vous êtes donc signataire de l'accord de Bougival en juillet dernier. Mais votre signature n'apparaît pas sur l'accord complémentaire ni sur le volet économique et social. Bah, on se demande pourquoi.
Oui, merci Elisabeth de poser cette question. Effectivement, j'ai entendu cette petite polémique. Je voudrais confirmer ici, sous votre antenne, que j'étais bien à l'ouverture des discussions à l'Élysée le 16 janvier. J'ai participé à toutes les négociations qui se sont déroulées le samedi, le dimanche et le lundi. Mais pour une question d'urgence personnelle, j'ai dû rentrer d'urgence lundi soir, même si le cabinet du président de la République m'avait demandé de rester pour signer. J'ai considéré que mon travail a été accompli. Mais l'Éveil Océanien a signé le document, ma chère Elisabeth, avec la signature des deux vice-présidents, que sont la présidente du Congrès et M. Vaimoa Mouliava. Je trouve que l'image est assez cohérente, où la présidence, puisque nous formons tous les trois la présidence, on a signé à la fois Bougival et l'accord complémentaire.
Donc il n'y a pas de distance de votre part par rapport à cet accord, même si vous ne l'avez pas signé
aucunement, on assume totalement notre signature à la fois sur Bougival et sur l'accord complémentaire.
Pendant qu'on y a une autre signature qui manque et qui est un peu interpellée, c'est celle de Philippe Gomès. On sait que l'Éveil Océanien et Calédonie ensemble sont aujourd'hui un peu proches. Pourquoi il n'a pas signé, lui?
Bon, je ne sais pas. Ce que je sais, moi, c'est que Philippe Dunoyer a signé, au titre de Calédonie ensemble, Élysée-Oudinot. Moi, je vous propose d'inviter M. Philippe Gomès, mais ce n'est pas à moi de répondre à ces questions. Je ne connais pas les raisons.
Vous les connaissez, vous ne voulez pas les dire. Vous venez de réunir votre conseil politique. C'était samedi à Païta. Comment les adhérents de l'Éveil Océanien accueillent l'accord de Bougival et l'accord complémentaire? Est-ce qu'ils ont des questions particulières? Est-ce qu'il y a des points qui les interrogent, qui les interpellent?
Ben écoutez, les militants que nous avons réunis ce week-end, très nombreux, ont accueilli dans une large majorité favorablement les discussions qui se sont déroulées à Paris. Et il y a deux inquiétudes. La première, c'est est-ce qu'aujourd'hui le processus va aller jusqu'à son terme? C'est une réelle question. On leur a expliqué que maintenant, nous, on avait fini notre job, qui était de nous entendre. Maintenant, la balle est dans le camp, en fait, des parlementaires français. La deuxième inquiétude, c'est sur le plan de relance. Mais je pense que cette question-là, nous reviendrons après.
Parce que cet accord complémentaire, Élysée-Oudinot, bon, c'était encore les vacances. On n'a peut-être pas, on n'est peut-être pas allé au fond de l'explication de son contenu. Qu'est-ce qu'il apporte par rapport à Bougival? C'est des modifications, des compléments, des précisions. Qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport à l'accord qui avait été signé en juillet?
De mon point de vue, Élysée-Oudinot, c'est un gros éclairage, précisé, ce qui a été laissé comme grosse ambiguïté dans Bougival. Et ça, c'est fondamental. Une ambiguïté que nous, l'Éveil Océanien, nous avons voulu lever. C'est celle de la situation créée lorsque les compétences régaliennes sont transférées.
C'est pas vraiment. Est-ce que c'est vraiment éclairci? Parce que j'ai plus la phrase, je l'ai pas sous les yeux. Mais en gros, une fois que les compétences régaliennes sont transférées, si elles le sont, les partenaires et l'État se retrouvent pour examiner la situation ainsi créée. C'est dit différemment, mais pour examiner la situation. Donc c'est pas vraiment. Il y a pas. C'est pas forcément très clair. On sait ce que ça donne d'examiner la situation ainsi créée. Ça fait 4 ans qu'on le fait.
Écoutez, moi, j'ai fait Bougival et j'ai fait Élysée-Oudinot. Le processus de décolonisation, tel que nous l'avons connu dans Matignon et Nouméa, c'était un référendum d'autodétermination, donc avec un corps électoral précis, des modalités de déclenchement. Ça, c'est ça, la décolonisation telle que nous l'avons connue. Les partenaires ont exprimé la volonté de ne plus réitérer ce processus. Et donc, le processus de décolonisation, ce n'est pas un référendum d'autodétermination, mais c'est la possibilité de renouveler cette autodétermination via le transfert de compétences régaliennes. Donc cela veut dire que si c'est renouvelé, cela implique que La nouvelle manière de créer l'autodétermination, c'est le transfert des 4 compétences régaliennes. Et dans les discussions, le transfert des compétences régaliennes d'un point de vue politique, dans les discussions que nous avons eues à la fois à Bougival et à Lise et Oudinot, ça équivaudrait à la souveraineté. La phrase exacte, c'est « si les 4 compétences régaliennes sont transférées, les partenaires se réuniront autour de la table pour discuter des nouvelles relations » entre l'État de la Nouvelle-Calédonie, parce que c'est ça qui est instauré dans Bougival, et l'État français. Donc ça veut bien dire qu'il y a des nouvelles relations, parce qu'on est arrivé au terme du processus de décolonisation.
– C'est pas un verrou supplémentaire pour rendre encore plus compliqué le…
Ben, – il y a certains juristes qui vont dire que c'est pas forcément ça, parce qu'il reste encore certaines compétences qu'il faut transférer, mais politiquement, ce qui a été décidé à la fois à Bougival et confirmé à Élisée Oudinot, c'est bien ça.
Alors il y a des précisions également dans Élisée Oudinot concernant le transfert de compétences de la Nouvelle-Calédonie aux provinces. C'est un chapitre qui est intitulé l'attractivité économique. Est-ce que vous êtes favorable aux dispositions qui là aussi sont complémentaires par rapport à ce qu'il y avait dans Bougival, hein ?
Je considère moi que c'est une précision encore une fois. Dans Bougival, il y a un paragraphe qui dit que les compétences de la Nouvelle-Calédonie, donc il n'y a pas de restriction, a priori toutes les compétences de la Nouvelle-Calédonie, peuvent être transférées aux provinces. En plus de ça, on peut transférer à une province et pas aux autres. Ce qui est quand même assez bizarre. Mais bon, c'est ça qui a été.
Ah ben les provinces sont différentes, donc c'est peut-être normal aussi. Elles ont des populations différentes, des stades de développement différents. Donc c'est effectivement la possibilité pour chacune de choisir les compétences qui l'intéressent.
Non, moi je crois qu'en maintenant ce principe, on va construire un pays Frankenstein. Parce qu'on ne peut pas avoir une province qui a une compétence et puis le reste des compétences pour les deux autres provinces à la Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, pour celles et ceux qui voudraient simplifier la vie dans notre pays, simplifier les démarches administratives, de démanteler comme ça, ça n'a aucun sens. Parce que, admettons que ce soit dans Bougival, toutes les compétences sont maintenant, que ce soit la fiscalité. Donc vous imaginez si on transfère la fiscalité à la province sud. Donc il y aura un service fiscaux à la province sud et le service fiscaux à la Nouvelle-Calédonie pour les deux autres provinces. Mais c'est un pays qui est totalement démonté. Et donc j'utilise à dessein l'expression « pays Frankenstein » parce que ce n'est pas ça qu'on veut.
– Alors qu'est-ce que vous voulez ? Parce que vous êtes d'accord avec ces dispositions.
– Mais j'ai expliqué ce qu'il y avait dans Bougival. C'était ça qui… Donc on pouvait transférer toutes les compétences de la Nouvelle-Calédonie et on pouvait transférer une compétence à une province. Le fait de transférer une compétence à une province est maintenu dans Élisée Oudinot. Cependant, ce qui s'est passé dans Élisée Oudinot, on a restreint le champ des compétences. C'est-à-dire en ce qui concerne que l'attractivité économique, après avoir fait une revue des compétences pour savoir quelles compétences vont à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces et aux communes, et là, à partir de ce moment-là, une fois qu'on a fait ces revues-là, on arrive à décider, dans le cadre de l'attractivité économique, quelles sont les compétences qui pourraient être dévolues aux provinces. Mais le plus important, Elisabeth, c'est que dans Bougival, il y a un mécanisme, c'est-à-dire comment ça fonctionne. La province, elle demande, et puis c'est pas la province demande, et puis la Calédonie ne dit rien. Le Congrès a son mot à dire. Et donc le mécanisme, tel que nous l'avons établi dans le premier comité de rédaction quand Valls est venu en Nouvelle-Calédonie, ça a été tranché par l'État. Le mécanisme, c'est le Congrès qui décide si la compétence est transférée ou pas, et le mécanisme est renvoyé à l'écriture de la loi organique spéciale. C'est exactement ce qu'on a réécrit dans Élisée Oudinot. On a restreint le champ des compétences qui pourraient être transférées aux provinces concernant l'attractivité économique, mais le mécanisme, c'est-à-dire c'est toujours le Congrès, mais il est logé dans la loi organique spéciale. Voilà ce qui est dit dans le chapitre attractivité économique.
Donc pour vous, ça ne remet pas en cause l'unicité de la Nouvelle-Calédonie. Certains parlent à nouveau de risque de partition, etc. Ce n'est pas le cas.
Si c'était le cas, on n'aurait pas signé Élisée Oudinot. Je vous le dis.
Alors vous aviez déjà soutenu DEVA. On oui. S'en souvient, c'était des discussions qui s'étaient tenues sous la présidence de Manuel Valls, qui n'avait pas abouti à un accord. Maintenant, vous soutenez Bougival. C'est quand même deux textes, deux projets qui sont extrêmement différents. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu incohérent de votre part d'avoir soutenu l'un, de soutenir l'autre aujourd'hui ?
Écoutez, le projet de DEVA, c'était souveraineté partagée. Je rappelle que nous, les Veilles Océaniens, notre projet, c'est quasiment une copie conforme de la souveraineté avec la France.
Souveraineté partagée, Manuel Valls dit aujourd'hui que c'est un État associé, une indépendance association, mais qu'il ne voulait pas le dire parce que ces mots-là ont de la peine à passer en Nouvelle-Calédonie.
Oui, mais de toute façon, les Calédoniens, avec les mots, ils en font un peu tout ce qu'ils veulent. Mais c'est nous, le projet de l'éveil océanien, c'était de dire on décide maintenant et dans une trajectoire qui reste à définir de 30 à 35 ans, arrivé au bout, on construit en fait le partenariat programmé avec l'État français. Notre manière de dire souveraineté avec la France, État associé. Et c'est ce qu'avait proposé un peu Edgar Pisani en 1985. Donc c'était il y a 40 ans.
Indépendance
association. Nous, on est sur ce volet-là, parce que ça dépend de curseur entre la souveraineté, ce qui est établi entre la Nouvelle-Calédonie et la France. D'ailleurs, la Nouvelle-Calédonie est selon moi, politiquement, déjà un État associé. Parce que la France, elle exerce pour la Nouvelle-Calédonie des compétences régaliennes, plus l'enseignement. L'État associé, ce serait quoi ? Ben, les compétences régaliennes, ce sont les compétences de la France aujourd'hui. Mais si la Nouvelle-Calédonie devient un État associé, moi, je souhaite qu'elle exerce encore les compétences régaliennes, mais pas parce que ce sont ses compétences à elle, mais pour le compte de la Nouvelle-Calédonie. Et ça permettrait de sortir définitivement de la dualité, du oui et du non, et de se projeter définitivement. Donc, nous, on était sur ça. Ça, c'est débat. Ça a échoué. Les loyalistes n'ont pas voulu. Le président de la République nous a convoqués à Paris le 2 juillet. Je ne suis pas venu sous votre antenne, mais je suis allé sur... c'est la première, la chaîne publique, où j'ai annoncé que, vu qu'on n'est pas capable d'aller vers un projet de ce type-là, dans ce cas-là, le minimum syndical, ce serait de reproduire ce qui s'est fait à Matignon et à Nouméa, et donc ce que j'ai appelé l'avenant à l'accord de Nouméa. Nouvelle période de stabilité, avec un nouveau référendum qui ne clive pas, mais un référendum de projet. Le 2 juillet, à l'ouverture du sommet sur la Nouvelle-Calédonie, après que tous les partenaires se soient exprimés, le président de la République dit « Je vous invite à aller vous retrouver à Bougival, discuter d'une nouvelle période de stabilité et avec une nouvelle consultation sur un projet commun à l'ensemble des parties prenantes. » Il avait même d'ailleurs cité l'État associé restait une possibilité, mais c'est aux Calédoniens, aux partenaires politiques, de décider. Donc quand on va à Bougival, le président de la République a tracé le cadre. C'est ça le cadre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon. Les loyalistes et le Rassemblement, ainsi que le FLNKS et l'UNI, ont décidé de se concerter seuls, sans l'éveil océanien et sans Calédonie ensemble. OK, pas de souci. Ils sont sortis avec quoi ? Bougival. Donc Bougival, ce n'est pas une invention de l'éveil océanien ou de Calédonie ensemble.
Non, vous l'approuvez, vous l'avez signé.
Mais je vais y venir. Mais d'abord, ce n'est pas une invention de chez nous. C'est une invention des loyalistes validée par le FLNKS. Qui sommes-nous, nous, les mouvements centraux, pour dire, vu que les partis politiques les plus extrêmes qui arrivent à s'entendre sur un projet, qui sommes-nous pour dire, nous, on n'est pas d'accord parce que... Nous, on est capable de s'oublier, Elisabeth, pour le bien commun, pour le bien du pays. C'est ce qu'on a fait. On a dit, si les partenaires sont d'accord, ben nous, on va être d'accord aussi avec eux. Ils ont fait le plus gros du chemin.
Alors, de son côté, le FLNKS a signé Bougival depuis, il a retiré sa signature, il refuse cet accord. Il n'était pas à Paris, il a refusé l'invitation du chef de l'État pour les discussions qui ont abouti à Élysée Oudinot. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? On continue sans eux ? Il faut essayer de les ramener autour d'une table de discussion, s'il y en a encore une. Comment est-ce que vous voyez les rapports avec le FLNKS aujourd'hui ?
Je reprends la discussion que je viens de terminer. Ils ont signé Bougival. On a tous signé Bougival. On a tous, c'est tous engagés à venir défendre, présenter l'accord. Quelques semaines après, ils ont retiré leur signature pour dire qu'ils ne sont plus d'accord avec Bougival. L'État, par la voix de la nouvelle ministre des Outre-mer, parce qu'entre-temps, à Paris, quand même, ils ont changé l'échiquier en remplaçant Valls, avait suivi toutes les discussions par Naïma Moutchou, qui, avec tout le respect que je lui dois, mais elle n'a pas toute cette expérience avec les Calédoniens, parce qu'on est assez particulier, et propulsé sur le devant de la scène pour traiter le sujet calédonien. C'est un sujet difficile. Donc la ministre, elle vient, elle constate qu'il y a un blocage, et la ministre nous présente, après 24 heures sur notre territoire, une consultation anticipée. Mais quand on s'était engagé à Paris, notre job à nous, c'était de venir présenter, défendre et engager les Calédoniens, les partis politiques. Et leur rôle à eux, c'était de faire avancer le projet de loi constitutionnelle. Ils n'ont pas réussi à faire avancer le projet de loi constitutionnelle, donc ils ont décidé de modifier le calendrier et de dire « on va faire une petite consultation anticipée pour contraindre les parlementaires français à avancer sur le projet de loi constitutionnelle ». Ça fait l'objet d'une séance publique que vous connaissez, Elisabeth, qui s'est soldée par un 19 pour, un 19 abstention et 14 contre.
Donc, et l'abandon de la consultation.
Et l'abandon de la consultation anticipée. Et donc le président de la République a décidé de réouvrir le dialogue. Moi, je considère à ce moment-là que le FLNKS a une opportunité unique de reprendre le dialogue à ce moment-là. Parce que c'est ce que le FLNKS a appelé, à reprendre le dialogue. Ben, le FLNKS a décidé de ne pas y aller. Je n'en connais pas les raisons, mais je pense que c'est une faute politique de ne pas s'y rendre. Parce que tout le monde veut avancer, et je crois que le FLNKS aussi a envie d'avancer, et que si le FLNKS était venu, c'était l'opportunité pour nous d'avancer sur Bougival, plus, moins, peu importe. Mais accord ou pas accord, je crois que le plus important, c'est de maintenir le dialogue entre les partenaires. Le FLNKS a fait le choix de ne pas y aller, mais de participer par visioconférence. Le président de la République a rejeté, par respect pour celles et ceux qui se sont déplacés à Paris. Et donc, nous avons discuté, négocié, ce qui arrive à l'atterrissage de Élysée ou d'Odino. Maintenant, c'est la question que vous posez, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Mais nous, on respecte les engagements que nous avons signés. Donc nous, on va essayer d'avancer. Je crois qu'on a essayé à chaque moment, parce que quand on est rentré de Paris et que les FLNKS a durci le ton, on a essayé de dire, on était d'ailleurs les premiers à dire que le consensus, c'est avec tout le monde. Et sans consensus dans notre pays, ça ne fonctionne pas.
Donc vous êtes d'accord avec l'UNI qui dit aujourd'hui l'accord est signé, la phase de discussion est terminée, il faut aller de l'avant.
Ben, nous, c'est ce qu'on a fait. Enfin, moi, je considère qu'on avance. Mais après, maintenant, aujourd'hui, la balle, elle n'est plus dans notre camp. Aujourd'hui, c'est au Parlement de faire avancer le projet de loi constitutionnelle.
Et vous craignez l'attitude du FLNKS qui essaie de recommencer à mobiliser contre la réforme constitutionnelle, ou vous pensez que les choses vont se calmer et qu'ils vont rentrer dans le rang, entre guillemets?
Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas de boule de cristal, Elisabeth. Mais je crois que dans le cœur et dans l'inconscient des parlementaires et même des Calédoniens, il y a toujours un risque que tout cela s'embrase. Le dialogue, c'est le chemin de la paix et la sérénité pour sortir de là. Et que quand le débat se déporte du dialogue et commence à aller sur le terrain, c'est jamais bon signe dans notre pays.
Vous parliez du calendrier institutionnel, c'est effectivement la question qu'on se pose maintenant. La balle est dans le camp d'abord des sénateurs qui vont examiner le texte le 17 en commission, le 24 en séance publique. Ensuite, ce sera l'Assemblée nationale. Et ensuite, éventuellement, la convocation du Congrès de Versailles, si le texte a été adopté par les deux assemblées. Il y a beaucoup de lobbying à faire. Vous êtes en contact avec des groupes parlementaires. Vous essayez de les convaincre de voter le texte?
Mais je crois que tous les partenaires politiques ont des contacts avec l'ensemble des groupes politiques, que ce soit à l'Assemblée nationale et au Sénat. D'ailleurs, Elisabeth, quand je suis rentré, moi, le 19, les délégations à Paris ont rencontré des groupes de contact, aussi bien à l'Assemblée nationale et au Sénat, pour dire les engagements qui étaient les nôtres. Et nous, on reste sur ces engagements-là. On ne bouge pas.
Mais les parlementaires, dans quel état d'esprit sont-ils selon vous? Est-ce qu'il va y avoir une majorité? On pense qu'au Sénat, ça devrait passer sans trop de problème, mais à l'Assemblée nationale, ça va être compliqué, non?
Je veux dire que là, on a affaire à un projet de loi constitutionnelle. C'est pas un projet de loi de finances, projet de loi ordinaire. Projet de loi constitutionnelle, c'est qu'on vient modifier la Constitution, c'est la norme la plus élevée, et que pour modifier la Constitution, il y a des verrous. D'abord, les textes doivent être conformes dans les mêmes termes dans les deux assemblées. Donc ça veut dire que le texte qui est adopté au Sénat doit être conforme à celui de l'Assemblée nationale. Il n'existe pas de commission mixte paritaire si le texte n'arrive pas à trouver d'atterrissage commun. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas non plus de motion de rejet. Je sais que c'est la motion de rejet que le député Nicolas Mézorf a utilisée sur le report des élections provinciales. Donc, on a plein de contraintes pour adopter le projet de loi constitutionnelle. Les parlementaires qui ont peur, probablement, après les événements de mai 2024, parce qu'ils seront très attentifs. Il y a eu 14 morts, des dégâts colossaux dans notre pays. Donc, à mon avis, ça va beaucoup jouer dans la tête des parlementaires. Deux, je finirai par là, il ne faut pas oublier aussi l'obstruction parlementaire qui existe, qui est bien réelle. Si demain des groupes déposaient des 10 000 amendements, il n'y a pas de voie de sortie, il faut les examiner. Ça peut devenir compliqué, parce que sur des projets de texte ou des projets de loi de finances, il y a un calendrier à respecter. Sur les projets de loi constitutionnelle, à mon avis, il n'en existe pas. Donc ce qui rend plus difficile, et plus on va avancer dans le calendrier national, parce que les élections, l'élection présidentielle est dans un peu plus d'un an, dans 13-14 mois, et plus les groupes politiques vont faire de la politique au rang national.
– Donc vous pensez qu'il sera compliqué de réunir le Congrès de Versailles, ou qu'en tout cas il n'y aura pas une majorité des 3/5 au Congrès de Versailles ?–
Pas dans le calendrier que nous on a opéré. Élisée Oudinot, on propose de reporter les élections provinciales.
– avant le 31 décembre.
– Voilà, je rappelle que le Conseil constitutionnel, dans son avis rendu sur le dernier report qui a eu lieu, a dit que c'est le dernier report. S'il y a un nouveau report… À mon avis, c'est si et seulement si il y a une révision constitutionnelle. Et il y a une révision constitutionnelle si le texte est adopté à l'Assemblée nationale. Et tout ça, très bientôt. Parce qu'à l'heure où on se parle, Elisabeth, les élections provinciales ont toujours lieu fin juin. Donc est-ce qu'on arrivera d'ici aujourd'hui, on est, je ne sais plus, on est quel jour, Elisabeth ?
On est le 13, vendredi 13.
Vendredi 13 février. Entre le vendredi 13 février et fin juin, est-ce qu'on est capable d'adopter le texte au Sénat, capable d'adopter le texte à l'Assemblée nationale, de faire la révision constitutionnelle et faire le report? C'est toute la question.
Alors qu'est-ce qui se passe? Si le texte n'est pas adopté, on va prendre ce scénario. Il y a les élections provinciales qui ont lieu en juin.
Oui.
Mais après, il n'y a pas d'accord? On reste dans l'accord de Nouméa éternellement?
Ben, écoutez, dans Élisée Oudinot, c'est un éclairage, mais il y a une partie économique. Sans accord politique, le pays ne va pas s'effondrer. Mais s'il n'y a pas de stabilité, les investisseurs ne vont pas revenir. Okay, mais le pays ne meurt pas. Par contre, s'il n'y a pas de soutien des finances publiques et une petite relance de l'économie, là, le pays va mourir. Et dans Élisée Oudinot, nous avons concentré nos efforts, au-delà de la partie politique, sur la partie finance et économie. Donc ça, c'est pour nous. Donc si le texte n'est pas adopté, qu'il n'y a pas de révision constitutionnelle, alors il y aura des élections provinciales en juin. Ensuite, le paysage politique calédonien va s'installer. On sera à quelques mois de l'élection présidentielle. Il faudra attendre l'élection présidentielle. Après l'élection présidentielle, il y aura certainement une dissolution de l'Assemblée nationale, une nouvelle Assemblée, et puis un nouveau gouvernement qui sera mis en place. Et donc je crois qu'à partir de septembre, c'est-à-dire la rentrée scolaire à Paris en 2027, on aura un gouvernement avec un nouveau ministre, et peut-être une majorité à l'Assemblée nationale.
Donc ça fait beaucoup d'incertitudes. Hein,
si ça fait beaucoup d'incertitudes. Je crois que les Calédoniens aujourd'hui... on en marre, parce que depuis 2021, ils sont dans l'incertitude. Notre responsabilité, c'est de donner des perspectives à nos concitoyens. Et je crois que c'est ce que nous avons essayé de faire, à la fois à Bougival et à Élysée.
Ce volet économique et social auquel vous faisiez allusion, il est à la hauteur. C'est un soulagement. Ça va permettre à la Calédonie de respirer un peu pendant les mois qui viennent. Ou est-ce que il est vraiment soumis à l'accord, ou l'État va quand même, la France va quand même aider la Calédonie dans les... Même si la réforme n'est pas adoptée.
Bah écoutez, encore une fois, comme sur la partie politique dans Élisée Oudinot, je considère que la partie économique dans Élisée Oudinot, c'est une précision de ce qui a été fait à Bougival. Parce que quand nous, on a signé à Bougival, il y avait tambour battant tous les efforts financés de la part de l'État pour maintenir la Calédonie à flot. Finalement, il n'en est rien. Et il fallait attendre Élisée Oudinot pour préciser ces choses-là. Donc il y a trois choses fondamentales dans le plan. Premièrement, c'est la compensation pour les finances publiques. Vous savez, Elisabeth, que pour le budget de cette année, il manque la bagatelle de 60 milliards. Et donc dans les 60 milliards, je mets les 8 milliards des retraites, les 15 milliards du RUAM, et puis pour les collectivités, parce qu'il y a une perte... de recettes fiscales liées aux émeutes du 13 mai. Donc, la France vient apporter 15 milliards de cash. C'est le premier élément. Deuxième élément, c'est malgré cet apport de cash, on voit bien que sur les comptes sociaux, faute de réforme, bien sûr, à la fois sur le RUIA, mais sur le régime des retraites, Même si c'était adopté aujourd'hui, on n'arrivera pas à monter en puissance et donc il y aura encore des déficits pour les années 27 et 28. On a obtenu de la part du gouvernement l'assurance que malgré les efforts que nous allions faire, s'il y avait encore matière à compenser, l'État sera là pour compenser les régimes sociaux. Je rappelle que les régimes des retraites, ça concerne 40 000 retraités calédoniens. Hein. Troisième et dernier élément, qui était fondamental pour nous, c'est le contrat de désendettement. Nous avons emprunté 50 milliards pour le Covid et 120 milliards pour les émeutes. Donc, ça fait la bagatelle de 170 milliards et on va rembourser un peu moins de 300 milliards sur les 25 prochaines années. Donc nous avons condamné nos enfants et nos petits-enfants à rembourser ces prêts. Donc ce que nous avons obtenu de la part de l'État, c'est de travailler sur un contrat de désendettement. Parce que le poids de la dette pour la Calédonie est colossal. Cette année, c'est 7 milliards. L'année prochaine, ce sera 10. Et donc, c'est autant de milliards qui seront retranchés pour les services publics, pour les politiques publiques. Et ça, c'est une victoire importante. Parce que moi, je considère qu'on est arrivé à un degré d'autonomie. Il ne faut pas que tous les ans, on aille à Paris pour dire on a besoin de sous. Et que le contrat de désendettement, c'était une forme de responsabilité. Forme de responsabilité. De notre part, parce que dès qu'on se désendettait, ben, on arriverait à se restructurer. D'autant plus que sur le Covid, c'est une demande de longue date de la part des élus, et même des députés et des parlementaires, pour transformer les prêts en subventions. Et pareil pour les émeutes de mai 2024, où collectivement, tout le monde a une part de responsabilité, l'État compris.
Certains plus que d'autres quand même. Pour revenir à l'éveil océanien, vous vous présentez régulièrement. C'est un terme que je n'ai pas entendu là depuis tout à l'heure, comme la voix médiane, la troisième voix, la voix du milieu. Je ne sais pas ce que vous préférez comme expression. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? En Calédonie, vous le savez bien, depuis des décennies, on est indépendantiste ou on est partisan de la France. Vous êtes quoi, vous ?
Nous, on considère tout simplement... D'ailleurs, si je ne réponds pas à la question, c'est que vous ne l'avez pas posée jusqu'ici. Mais maintenant que vous la posez, je vais y répondre.
Non, mais c'est un terme que vous... Vous le revendiquez vous-même, généralement.
Oui, je le revendique parce que... les Calédoniens ont certainement oublié ce qui s'est passé dans les années 84-88, période des événements. D'ailleurs, un peu ce qui s'est passé en 2024 avec une puissance différente, où tout le monde était soit indépendantiste ou soit non-indépendantiste. Ben, pendant 4 ans, chacun tapait sur les murs pour dire quelle était la voie de sortie. La voie de sortie, c'était quoi ? C'est la poignée de main. Jean-Marie et Thibault et Jacques Lafleur. C'est ce processus de décolonisation, ensemble, cette communauté de destin, la citoyenneté qui a été créée dans l'accord de Nouméa. Donc c'est tout ça. Donc la poignée de main, Matignon et Oudinot, mais ça, je considère que c'est notre héritage. C'est notre héritage et donc il faut le préserver. Mais ce n'est pas que notre héritage, c'est aussi notre avenir. Il ne faut pas oublier ça.
Oui, mais c'est tout sauf une voie centrale. C'est justement chacun assume sa différence, sa légitimité et son camp. Jean-Marie Thibault était indépendantiste et Jacques Lafleur était pour le maintien de la qualité dans la France. Ah bon ? Aucun des deux n'était au milieu. Ils pensaient qu'il fallait construire ensemble, mais ça ne veut pas dire pour ça.
Dans ce cas-là, ils n'auraient pas signé les accords de Matignon. L'accord de Matignon, c'était encore. Fallait avoir un accord de paix. Donc c'était la décolonisation et un référendum programmé dans 10 ans. Ça n'a pas eu lieu. Il y a eu le miracle de l'accord d'Ouméa. L'accord d'Ouméa, c'était créer une citoyenneté calédonienne pour faire peuple, et aller vers le chemin de l'émancipation. Je ne dis plus ni moins que ça. Jacques Lafleur a bien signé aussi l'accord d'Ouméa, même s'il n'y avait plus Jean-Marie Thibault, c'était Rocco Amitant qui a signé. Donc nous, on est dans cette voie-là. Se replier sur son camp et dire qu'on ne veut pas faire avec les autres... Ça, c'est...
Au bout du compte, il y a une émancipation ou une autonomie dans la France ou il y a une indépendance, ce qui n'est quand même pas la même chose.
Mais non, mais il faut continuer. La décolonisation ne s'arrête pas parce qu'il y a eu 3 ans, Elisabeth. La décolonisation, pour moi, c'est...
Ça veut dire que la voie médiane, c'est aller forcément vers une indépendance association.
Non, c'est continuer l'émancipation. Mais ce n'est pas un gros mot, la souveraineté, Elisabeth. Je veux dire, l'Inde, quand elle est devenue indépendante...
Je
ne
parle pas de gros mots, je vous demande de définir ce que veut dire la voie médiane exactement.
Vous posez la question...
Parce que souvent les gens ne comprennent pas vraiment ce que ça veut dire.
Mais bien sûr, il faut continuer l'émancipation du pays. C'est comme ça que va le monde...
Jusqu'à l'indépendance.
Jusqu'à une forme de souveraineté avec la France, oui. Parce que la Calédonie, c'est la France, et la France, c'est la Calédonie aussi. Mais Elisabeth, Moi, je le dis parce que la décolonisation, pour moi, c'est plus que de la politique, c'est une histoire de justice. Voilà, je le dis. Quand il y a eu la colonisation dans notre pays, il n'y a pas eu de référendum. OK, bon, ça appartient à l'histoire. Là, il y a des référendums. Ouais. Les Calédoniens ont décidé non. Ben, on reste au sein de la République. Est-ce que pour autant, le chemin de décolonisation s'arrête? Non, je ne crois pas. Elle se poursuit d'une manière différente. Et d'ailleurs, c'était le miracle de Bougival. Plus de référendum couperé.
Décolonisation et pas indépendance. Souveraineté, on ne sait jamais. Elle est partagée, elle n'est pas partagée. On reconnaissait que tout ça est un peu confus, là, pour l'instant. Non ?
Et c'est peut-être confus pour nous, mais pour nous, c'est très, très clair. Et moi, je vais vous dire que la voix médiane se porte très bien. Parce que si ce n'était pas le cas, on n'aurait pas fait le plein... la semaine dernière, dans notre conseil politique, les gens vivent ça. On considère qu'il faut vivre ensemble.
Et tout le monde.
Dans presque
tous les partis politiques, on veut vivre ensemble.
Il y en a qui considèrent que l'eau et l'île ne se mélangent pas. Il y en a qui considèrent qu'il faut avoir une indépendance que Kanak. Voilà, je le dis de manière très claire. Donc, moi, je fais partie, comme d'autres, vous avez raison, dans les autres partis, qui considèrent qu'on peut vivre ensemble. Dans la France, aujourd'hui encore, mais peut-être d'une autre manière avec la France plus tard, demain.
Par rapport à Calédonie Ensemble, on sait que vous avez fait, mais ça, c'est presque mécanique et arithmétique, vous avez fait un groupe commun au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que cette proximité va plus loin? Est-ce qu'il y a des différences entre vous? Est-ce que vous êtes complètement sur la même longueur d'onde?
Bah, d'abord, on partage... on a beaucoup de points communs, mais il reste quand même des divergences, et je crois qu'il faut les maintenir, parce que si on pense tous la même chose, dans ce cas-là, on fait un parti unique dans notre pays. Non, on partage beaucoup de choses, mais d'abord...
Ils sont aussi dans la voie médiane.
D'abord, Calédonie Ensemble est inscrit comme un parti non indépendantiste. Nous, on a fait le choix, dès le départ, de s'inscrire dans aucun camp. Ni indépendance, ni pour la France. D'ailleurs, tout le monde nous a dit que c'était une lubie à l'époque.
C'est pour ça que j'essaie de comprendre.
Mais nous, on a essayé de casser les murs entre les uns et les autres. Parce que tu parles aux Calédoniens, Elisabeth. Les gens veulent vivre ensemble. La France et l'indépendance, c'est prégnant, c'est important, c'est une question importante, mais... Pour les élections municipales, par exemple, elles n'ont pas à s'inviter. Il y en a qui ont décidé de mettre ces sujets-là au cœur du réacteur nucléaire. Nous, on considère que, d'abord, c'est le quotidien des Calédoniens, qu'il faut réformer notre pays, et que nous, on est dans une trajectoire politique d'émancipation, de poursuite de la décolonisation. Et nous, on ne va pas plus loin que l'État associé. C'est ça qu'on veut dire.
On arrive bientôt au terme de cette interview. Vous faisiez une rapide allusion aux municipales. On avait dit qu'on n'en parle pas, puisque... il y a des questions de temps de parole, mais quand même, votre parti, l'Éveil océanien, est-ce qu'il va être présent dans ces élections municipales? Oui. En dehors du Grand Nouméa, est-ce que vous aurez des listes dans d'autres communes que celle de l'agglomération où vous avez déjà rendu public vos têtes de liste?
Oui, dans le Grand Nouméa et en dehors du Grand Nouméa, on est dans une trajectoire de listes d'ouverture. Soit sur des listes où on tire des listes, ou soit sur des listes où on soutient des listes. Donc je vous confirme, Elisabeth, qu'en dehors du Grand Nouméa, nous aurons des listes un peu partout en province sud.
Et à Nouméa, on parle d'une liste, on y revient, d'une liste commune, Calédonie Ensemble, Éveil Océanien, vous nous le confirmez?
Mais c'est pas que Calédonie Ensemble, Éveil Océanien, je veux dire qu'il y a d'autres aussi mouvances, mais je les laisserai...
Mais vous serez ensemble?
On a essayé de faire des listes d'ouverture partout, pas que dans le Grand Nouméa, en dehors du Grand Nouméa, mais il n'y a pas que l'Éveil océanien et Calédonie Ensemble. Il y a d'autres aussi mouvances politiques qui ont décidé de faire tomber les barrières et de parler de l'enjeu des municipales. Voilà.
Et sera rendu public quand?
Bientôt.
Vous avez jusqu'au 26 février. Hein.
Pour le dépôt des listes, oui.
Merci Mila Kouloutoukoumouli d'avoir accepté notre invitation dans ce magazine Transparence.
Merci Elisabeth.